cette opportunité que nous avons ce soir de nous retrouver autour de ta parole, pour cet enseignement que tu voudras nous dispenser par la bouche de Gilles. Nous te prions, notre Dieu, de l'accompagner dans sa prédication, de conduire par ton esprit et que nous puissions profiter de ses connaissances, de son enseignement et de toute ta grâce, notre Dieu. Nous te confions aussi pour le reste de son périple, ici en France et en Europe, et puis que oui, notre Dieu, tu veuilles le protéger, l'accompagner dans ses trajets avec Marco aussi. Et puis nous avons pensé aussi pour toute sa famille restée au Québec. Bénis-les beaucoup, notre Dieu. Nous remettons nous-mêmes à tes soins, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ton amour, et nous confions en toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Ce soir, nous allons jeter un regard sur l'épître de Jude, cette courte épître qui se trouve là juste avant l'Apocalypse. Et nous allons d'abord lire le texte, ensuite je vais prier à nouveau, mais très brièvement, mais pour se placer à nouveau devant le Seigneur. Et ensuite nous entrons dans le texte de Jude. Mais lisons d'abord, c'est quelques minutes quand même de lecture, mais c'est quand même court aussi. Alors, épître de Jude, verset 1. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, quand je usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or, je désire vous rappeler à vous qui, une fois, saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Mais Michel l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait, touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit « Que le Seigneur te censure ». Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des tâches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se rebaissant eux-mêmes. Nuées sans eau, emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or, Hénoc aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceci en disant « Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades » pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche annonce d'orgueilleux discours, et admirant les hommes en vue de leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient qu'à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels, n'ayant pas d'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns qui contestent, reprenez-les, les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout le siècle et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parle à nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, l'importance de bâtir littéralement notre vie chrétienne sur la saine doctrine. L'importance de connaître les enseignements de ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous savez qu'on peut regarder cette épître-là sous l'angle qui a été proposé pour le sujet de ce soir, c'est-à-dire attention aux faux docteurs. D'être prudent avec ceux qui enseignent ce qui est contraire à la saine doctrine apostolique. Bien entendu, on ne parle pas de divergence doctrinale sur des sujets qui sont plutôt secondaires, c'est-à-dire qui ne sont pas essentiels absolument à la foi chrétienne. Et on peut, bien entendu, avoir certaines convictions personnelles qui diffèrent d'un à l'autre. Mais on parle vraiment de faire attention à ceux qui s'égarent par rapport à la doctrine fondamentale. Avez-vous remarqué le pronom démonstratif « ceux-ci » qui revient très souvent à travers la lettre? De toute évidence, Jude pointe vers ces personnes qui, de leur enseignement, mais aussi de leur conduite, s'éloignaient complètement de la saine doctrine de la parole de Dieu. On peut regarder l'épître de Jude sous cet angle-là. Attention aux faux docteurs. Mais en fait, je pense qu'il y a un meilleur angle de vue. C'est celui qui nous amène plutôt à considérer l'importance d'avoir une saine doctrine. L'importance de croire et que nos fondements bibliques soient solides. Vous savez que dans beaucoup d'institutions financières, quand on veut apprendre à un caissier à reconnaître des faux billets, on s'y prend d'une certaine façon. On lui apprend à connaître par cœur les caractéristiques d'un vrai billet. Et alors, il pourra reconnaître tous les faux billets par la suite, simplement par le fait de connaître ce qui est vrai. C'est la même chose comme chrétien. Quand on connaît la saine doctrine, quand on connaît bien la parole de Dieu, quand on est des croyants fondés, avec vraiment un fondement solide, eh bien, on est plus en mesure de discerner rapidement ce qui est une fausse d'une vraie doctrine. Et puis, ce qui nous amènera aussi à rejeter tout enseignement qui n'est pas conforme avec les Écritures. Mais il faut dire que les faux docteurs, ils savent s'y prendre. Ils sont subtils. Et souvent, ils ont un discours dans lequel il y a des bases semblables avec les nôtres, et donc il y a des éléments communs. Et c'est ce qui fait que parfois, on peut perdre un peu le discernement de ce qui s'ensuit, ou de ce qui aussi est inclus dans leur enseignement. Nous allons regarder comment l'épître de Jude enseigne les croyants de l'Église à s'attacher fortement à la saine doctrine et à avoir du discernement concernant ceux qui s'en égarent et qui égarent les autres aussi. L'auteur est Jude. Il se présente comme un esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. Nous connaissons comme Jude, frère de Jacques, un demi-frère du Seigneur. Et de toute évidence, c'est de ce Jude-là dont il est question. Ce qui fait que nous avons dans le Nouveau Testament deux épîtres qui ont été rédigées par des demi-frères de Jésus-Christ, Jacques et Jude. Le Jacques dont Jude fait allusion ici est le Jacques qui a rédigé l'épître de Jacques, qui était aussi un demi-frère du Seigneur. Mais c'est assez remarquable que Jude ne se présente pas comme demi-frère du Seigneur, mais plutôt comme son esclave. Alors que c'est vrai que les frères du Seigneur ne croyaient pas en lui avant sa résurrection. Mais après, il s'est opéré de grands changements dans la famille de Jésus et plusieurs de ses frères, de ses sœurs sont venus à la connaissance du salut, mais seulement après sa résurrection. Eh bien, Jude fait partie de ceux-là. Mais il est nécessaire qu'il se présente comme un esclave de Jésus-Christ parce que c'est davantage dans l'angle de cette relation qu'il doit écrire cette épître et non pas comme un demi-frère. Mais par contre, en disant qu'il est frère de Jacques, c'était pour Jude son autorité apostolique pour rédiger. Parce que tous devaient savoir que c'était bien le demi-frère du Seigneur et donc le frère de Jacques aussi. Et c'est ce qui fait que, en s'identifiant comme frère de Jacques, il peut rédiger cette épître avec autorité apostolique. Et c'est pour cela aussi que son épître a été préservée dans le canon du Nouveau Testament. Donc, voilà qui est ce Jude. Maintenant, on remarque à travers la lettre qu'il parle beaucoup de l'Ancien Testament. Il parle de différents événements qui sont rapportés, entre autres, et particulièrement dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres. Il y a aussi deux autres citations ou allusions à des ouvrages qui ne font pas partie du canon hébreu, mais qui font partie de la tradition littéraire juive. Je suis parfaitement conscient que certains commentateurs, certains prédicateurs pensent que Jude ne cite pas des ouvrages juifs, mais il me semble que c'est bien le cas, en particulier quand on considère la formulation de ces citations. On parle d'un livre juif qui s'appelle « Le Testament de Moïse ». Et dans cet ouvrage, qu'on ne trouve plus de grâce aujourd'hui, sinon que d'un chapitre seulement, on a un chapitre qui s'appelait à l'époque « L'Assomption de Moïse ». Et puis, dans cet ouvrage juif, mais pas canonique, c'est-à-dire pas inclus dans les livres inspirés de la parole de Dieu, eh bien, dans ce livre, nous avons l'épisode de l'archange Michel qui conteste avec le diable pour le corps de Moïse. Et l'autre citation nous vient d'un livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Et c'est la prophétie du Enoch qui est de toute évidence une référence au Enoch de la Genèse, mais on n'a pas cette prophétie dans l'Écriture. On la trouve plutôt dans un livre, un autre livre juif, qui s'appelle le livre d'Enoch. Est-ce possible que Jude cite des livres non canoniques pour s'appuyer? Bien sûr, c'est possible, parce que le miracle de l'inspiration, c'est d'utiliser un auteur avec son arrière-plan, ses connaissances. Et voilà, il peut, à travers cette citation, donner sa parole, le Seigneur. Eh bien, c'est ce qu'il fait quand Paul, par exemple, cite des poètes grecs. Comme il le fait, il me semble, c'est aux gens de Crète. Ouais, quand il est question des gens de Crète, eh bien, il y a Euripide, je pense, ou je ne me rappelle plus c'est qui les noms des poètes grecs, mais Paul cite parfois des ouvrages qui sont en dehors du canon de l'Écriture. Mais quand il le fait simplement parce qu'il s'appuie sur un élément de sa culture, de son époque, d'un point de vue littéraire, pour communiquer sa pensée et l'Esprit de Dieu à travers cela, donne sa parole. La citation de l'Assomption de Moïse, de même que la citation du livre d'Enoch dans le Épître de Jude sont inspirées. Mais si on lit le livre d'Enoch qui existe encore aujourd'hui, hein, et on a reconstitué l'Assomption de Moïse à partir de quelques fragments de manuscrits, eh bien, quand on les lit, même si on retrouve le même texte, ce n'est pas le texte inspiré de la parole de Dieu. Ce sont les citations originales. Mais quand on l'a ici sous nos yeux, dans le canon du Nouveau Testament, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est quand même tout un miracle, n'est-ce pas, l'inspiration? Le Seigneur a utilisé Jude avec ses connaissances, à la fois de l'Ancien Testament et des ouvrages de son époque que les Juifs connaissaient, pour leur adresser des exhortations poussées par le Seigneur. C'est remarquable. C'est le miracle de l'inspiration de l'Écriture. Autre chose qu'on remarque avec les citations donc, de Jude, qui proviennent ou bien de la culture juive, ou alors de l'Ancien Testament, le Pentateuque en particulier, il n'y a aucune allusion au Temple dans Jude. Même si on est bien appuyé dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'allusion au Temple, aucune allusion à Aaron ou à la sacrificature. Bien sûr, il y a Moïse, mais c'est dans un autre contexte, pas celui de la sacrificature ou de la loi mosaïque, même dans un sens. Alors, quand on regarde cela, on a l'impression que Jude a probablement rédigé cet épître-là après l'année 70, quand le Temple est tombé. Cette année-là, elle est importante dans le contexte de la rédaction des ouvrages canoniques, parce qu'on imagine que si le Temple était peut-être encore en fonction, peut-être que Jude aurait cité un exemple provenant du Pentateuque en lien avec la sacrificature. C'est tout à fait le contraire dans l'Épître aux Hébreux. Il y a beaucoup de citations par rapport au Temple. Et d'ailleurs, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du Temple, il en parle comme étant encore en fonction. On offre chaque jour, continuellement, au Temple, les mêmes sacrifices. Alors, Hébreux a certainement été rédigé avant la destruction 70, parce que après, ça serait quand même curieux. Mais Jude, on peut peut-être présumer que c'est donc une épître rédigée sur le tard, un peu plus tard que les autres épîtres. Et une autre preuve de cela est la manière dont Jude rappelle l'enseignement des apôtres au verset 17. « Souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que... » Donc, c'est Jude pointe vers le passé. Jude pointe vers une époque où les apôtres étaient encore là et où ils enseignaient et instruisaient l'Église au sujet de ce qui était à venir. Donc, déjà, cette façon de parler semble nous ramener à une époque plus tardive. C'est pourquoi on a, avec ces arguments-là, et le fait aussi qu'on parle de la doctrine comme ayant été transmise au sein une seule fois, ça semble vraiment nous amener à une période tardive. Probablement que Jude a été rédigé quelque part en 70 et 80 après Jésus-Christ. Peut-être pas plus tard, mais certainement dans cette période-là. Dernier argument sujet, quand on lit l'Épître de Jude au complet et qu'on la met vis-à-vis le deuxième chapitre de 2 Pierre. Donc, 2 Pierre, chapitre 2 et Jude, c'est presque le même texte. Vous ferez la comparaison chez vous, le pourcentage de similarité est immense. On parle du même texte pratiquement, à l'exception notoire d'un changement des temps de verbe, ou, d'une vision temporelle différente. Dans l'Épître de Pierre, quand Pierre parle des faux docteurs, il parle au futur, ils viendront, ils seront là. Tandis que dans Jude, on parle au passé ou au présent, ils sont là, ils se sont déjà infiltrés parmi vous, ils sont maintenant arrivés. C'est pas pour rien que quand Jude dit « Souvenez-vous de ce que vous disaient les apôtres ben, », en particulier, il pense au chapitre 2 de 2 Pierre. Donc, 2 Pierre était forcément rédigé. Les similarités sont trop proches pour penser qu'il n'y a pas une certaine dépendance de Jude même dans la deuxième épître de Pierre. Ce qui fait que, encore une fois, Jude a certainement été écrit plus tard. Alors, on sait que plus on avançait dans l'histoire de l'Église après la période des Actes des Apôtres, on sait que Déjà, au début, il y a eu de la corruption doctrinale, des mauvaises conduites. On voit que Paul reproche particulièrement aux Galates de passer à un autre évangile. Les Galates, c'est la première lettre de Paul rédigée. Et puis après, dans les Colossiens, hein, quand Paul écrit à la fin des Actes, dans Colossiens, il parle de culte des anges, de toutes sortes de sectes déjà qui avaient fait leur apparition. On est à l'aube de la période gnostique, c'est-à-dire ces gens qui enseignaient que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le même Dieu que celui du Nouveau Testament et rejetaient enfin tout l'Ancien Testament et toute la création. Et on le voit surtout dans les épîtres de Jean, la fin du premier siècle. Donc, la doctrine, elle devait être préservée parce qu'elle était constamment menacée. Constamment menacée. Dès le départ, avec les divisions, avec les faux docteurs, avec les judaïsants, avec les gnostiques, avec les juifs qui avaient toutes sortes de philosophies, de cultes différents, eh bien, la doctrine était menacée. Et c'est pourquoi, malheureusement, on peut discerner dans une épître comme Jude qu'on n'a pas su veiller, faire attention, on a peut-être été, négligent sur la saine doctrine. Mais à nouveau, je rappelle que Jude parle bien de la doctrine essentielle, fondamentale à la foi, et non pas des divergences d'opinion sur des doctrines qui sont secondaires. Parce que peut-être que parfois, de ce côté-là aussi, on a beaucoup exagéré, et puis on a créé des divisions qui étaient complètement inutiles en bout de ligne. Alors, Jude s'adresse à eux en leur rappelant qu'ils sont d'abord des appelés, et quand on voit le terme appelé en lien avec des croyants, c'est pratiquement synonyme d'élection. On a été choisi par Dieu, c'est ce que signifie le terme appelé. Choisi pour un but particulier. On est des bien-aimés en Dieu le Père. Quand vous voyez en Dieu, en Christ, ou en Jésus-Christ, ou dans le Christ Jésus, toutes ces expressions soulignent une chose fondamentale. Nous sommes unis comme ça avec le Père et le Fils. C'est vraiment la prière sacerdotale de Christ, hein, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Eh bien, cette expression en Dieu le Père, en Jésus-Christ, elle est la concrétisation de cette prière, l'exaucement. Nous sommes un en lui. Ça parle de notre position en Jésus et de toutes les bénédictions qui en découlent. Et de savoir que nous sommes en Dieu le Père, bien, ça montre que nous ne sommes pas des orphelins. Au contraire, nous appartenons au Père céleste. Nous sommes gardés, préservés, intacts, conservés dans la Darbie en Jésus-Christ. Comme beaucoup d'autres auteurs le font dans le Nouveau Testament, on souhaite la miséricorde, la paix et l'amour. Parfois, c'est la grâce aussi. D'ailleurs, j'ai failli dire le mot grâce dans ma lecture, tellement je suis habitué de voir dans les introductions que la grâce vous soit multipliée. Mais quand on parle de grâce, de paix, d'amour, de miséricorde pour des croyants, et surtout multipliés, il y a un aspect dans ces mots-là qui va plus loin que le salut. La grâce qui sauve, on l'a déjà reçue, pas besoin de la souhaiter, on l'a déjà reçue. Mais la grâce que l'on souhaite qui soit multipliée, c'est celle qui harmonise nos relations, qui nous amène à agir dans la grâce. Même chose pour la paix, c'est la présence d'harmonie, c'est pas que l'absence de conflit, mais une paix réelle entre nous et bien sûr cet amour d'engagement qui est souhaité entre chaque croyant. Des chrétiens qui mettent en pratique la miséricorde, la paix, l'amour, la grâce. Voilà, c'est une église qui va s'édifier et grandir. Bien-aimé, dit-il au verset 3, Jude avait un but pour écrire. Il voulait parler du commun salut. Je n'ai aucune idée de quoi il voulait parler, en fait. Parce que c'est large, ça, le commun salut. C'est le fait qu'on soit sauvé en Jésus-Christ de la même manière. C'est commun parce que vous êtes sauvés comme moi. Donc, on est sauvés de la même façon. Je ne sais pas exactement de quoi voulait parler Jude, mais de toute évidence, il semble avoir pris une autre direction. La plupart des commentateurs voient dans cette façon de dire les choses, « Je me suis trouvé dans la nécessité. » C'est comme, plutôt que de parler du salut commun, peut-être qu'il aurait juste écrit, « N'est-ce pas une bénédiction que d'être sauvé? » Peut-être que c'est ça qu'il aurait écrit. Mais là, il se voyait plutôt dans l'obligation, due à la situation, d'écrire une lettre de mise en garde pour combattre spirituellement. Ça doit être pénible de changer le sujet d'une lettre quand tu veux simplement dire, exprimer ta joie d'être sauvé, et là tu es obligé de dire, levez-vous, il faut aller se battre. Parce que c'est exactement ce qu'il va faire. Mais regardez, l'exhortation, elle est à combattre, David dit, pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Dans les versions secondes, il semble que c'est pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. De quelle foi on parle? Une foi qui est enseignée aux saints. Le mot foi ici n'est pas la foi personnelle en Jésus qui fait qu'on saisit sa grâce pour être sauvé. C'est une foi qui est enseignée et vraiment littéralement transmise par l'enseignement. Donc, on peut transmettre la foi. Je ne peux pas transmettre la foi à mes enfants. Si c'était le cas, hein, tous les parents chrétiens s'assureraient tout de suite de transmettre la foi à leurs enfants pour qu'ils soient sauvés. On voudrait bien. Mais quel type de foi peut être transmise? Eh bien, c'est la sainte doctrine. Regardez, elle a été enseignée. Parce qu'elle a été enseignée, c'est le contenu même, l'objet de la foi. C'est-à-dire que notre foi repose sur le message doctrinal de l'Évangile. Et la foi dans l'Écriture, et ici en particulier, parfois c'est la sainte doctrine. C'est le contenu objectif de la foi. C'est-à-dire l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. Elle a été une fois enseignée aux saints. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'il voulait dire par une fois? J'enseigne une fois, après c'est fini. J'enseigne plus jamais. C'est ce qui me convainc qu'en réalité, il parle de transmettre. C'est vrai que la foi, une fois qu'elle a été transmise, ici, dans la parole de Dieu, elle l'a été pour toujours à l'Église. Maintenant, Dieu préserve sa parole et la garde. Donc, Jude pouvait dire, il y a une foi objective, qui est la parole de Dieu, qui a été enseignée et transmise aux saints, et ça a été fait une seule fois. Pas dans le sens qu'il n'y avait plus besoin de prédicateurs, des choses comme ça, mais dans le sens où Dieu, maintenant, avait donné sa révélation à l'Église. Quand Jude écrit cela, ça nous amène à comprendre que probablement l'ensemble du Nouveau Testament est rédigé. Il reste certainement que les épîtres de Jean, son évangile et l'Apocalypse, donc les écrits de Jean, qui ne sont pas rédigés encore, mais tout le reste est rédigé. Et Jude ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien à ajouter à la doctrine, mais que tout ce qui a été révélé jusqu'à ce point-là l'a été transmis par la parole de Dieu, par le Nouveau Testament et les lettres, et voilà maintenant, il faut combattre. Il fallait préserver, protéger cette doctrine qui était transmise et enseignée à l'Église. Pourquoi? Parce que certains hommes se sont glissés et ils sont entrés hypocritement, furtivement, dans le rassemblement. Au début, probablement qu'ils abordaient le même discours. Souvent, ces gens sont observateurs, ils écoutent comment on parle dans une église, comment on s'exprime, ils décèlent rapidement les points forts et les points faibles et savent exactement quoi faire pour enseigner par la suite et communiquer leur fausse doctrine. Ça se fait encore aujourd'hui. Bon, ils enseignent probablement pas les mêmes erreurs qu'eux enseignaient, mais j'ai vu ça plusieurs fois. Des gens qui entrent dans les assemblées et un peu de temps après, ils commencent à rencontrer des membres de l'assemblée ou, disons, des gens qui la fréquentent d'une façon plus personnelle, privée, et commencent leur travail de destruction. Ils enseignent des fausses doctrines, ils séduisent les croyants qui ne sont pas suffisamment peut-être affermis dans la foi, et ça crée des divisions par la suite. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Alors, pourtant, la parole de Dieu mettait en garde contre un tel fait. Quand il est dit ici, ils sont inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, c'est une manière de dire que déjà dans l'Écriture de l'Ancien Testament, on était mis en garde contre ceux qui enseignaient faussement. Avec des exemples d'ailleurs qui vont être mentionnés par la suite. avec Caïn, Balaam et Corée, entre autres, qui sont des exemples de mauvaise conduite, de mauvais enseignement, de gens qui détruisent l'unité de l'Église. Ils abusent de tout. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Autrement dit, pour eux, la grâce, c'est une liberté de faire ce qu'on veut. Parce que nous sommes sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Ils vont renier par leur enseignement et leur conduite le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien que ces deux termes-là soient mis ensemble. Et dans la note de Darby, à côté de Maître, dit « souverain ». Mais c'est un très bon terme parce que c'est vrai que les mots utilisés ici parlent de la Seigneurie de Jésus. Jésus est le Seigneur, est le Maître, et eux, ils le renient par leurs œuvres. Alors, quoi faire pour mettre en garde les croyants et les amener à combattre la fausse doctrine? Eh bien, il faut tout simplement les ramener dans l'Écriture. C'est exactement ce que Jude va faire. Il veut ramener les croyants auxquels il s'adresse dans l'Écriture en disant « Je désire vous rappeler au verset 5 à vous qui, une fois, saviez tout. » Ce n'est pas parce qu'ils savent tout dans tous les détails. Cette phrase-là fait simplement dire « Ce que je m'apprête à vous dire, vous le savez déjà. » Ils ne savent pas tout, c'est impossible. Il n'y a personne qui sait tout dans l'Écriture. Mais la phrase ici, elle doit être comprise dans son contexte de connaissance par rapport aux événements qui s'en viennent. « Vous savez fort bien toutes ces choses », dira la version seconde. Et pour moi, c'est plus précis. Ça aide plus à comprendre. « Vous savez fort bien toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre héritage de l'Ancien Testament. Vous savez très bien ce que Dieu a fait en Égypte. Comment il a détruit ceux qui n'ont pas cru aussi. Et comment aussi Dieu à juger les anges qui ont abandonné leur propre demeure. Si vous voulez savoir la référence, c'est Genèse 6, versets 1 à 3. C'est à ce moment-là que les anges ont abandonné ou quitté leur premier état, comme dit le texte original, qu'ils ont quitté leur origine, ils n'ont pas gardé et se sont livrés à des péchés de nature sexuelle. Comment des anges peuvent faire ça? Il y a deux possibilités. Les anges peuvent se livrer à des activités sexuelles s'ils prennent corps humain. Et c'est arrivé ça. Il y a des anges qui sont apparus dans l'Ancien Testament qui ont même mangé et bu avec des gens. Donc, le phénomène de prendre un corps temporairement pour des anges, de toute évidence, pouvait être une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ces anges-là, des anges déchus, bien entendu, aient pris possession d'hommes. Et que par le fait qu'ils possédaient ces hommes-là, dans les relations sexuelles qui ont suivi avec des femmes, ça a créé une sorte de corruption de la race humaine. En fait, Genèse 6 est en train d'expliquer un des premiers efforts de Satan pour détruire la race humaine. Pourquoi? Parce qu'après la chute, Satan avait appris que la postérité de la femme allait lui écraser la tête, même s'il allait causer une blessure au talon. Et cette prophétie-là, qui est la première prophétie messianique, en fait, la première prophétie rédemptrice, eh bien, Satan s'y est opposé tout de suite. Le meurtre d'Abel et ensuite la corruption de la race humaine par des anges déchus qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes. Et c'est évident que le péché est de nature sexuelle parce que Jude va utiliser l'exemple de Sodome et Gomorre et on sait que le péché ici, c'est le péché d'homosexualité. C'est aller après une autre chair, tu vois, c'est d'aller dans un sens inverse de l'ordre de la création et de l'ordre naturel des choses. C'est exactement ce que les anges ont fait. Ça nous prouve que la nature du péché des anges est un péché sexuel. Peu importe comment ça s'est passé exactement. Et donc, Dieu a pris ces anges-là et les a mis en un endroit particulier où eux, il n'y a aucune possibilité de sortie. Ils sont en attente d'un jugement éternel. Mais déjà, ils sont dans un lieu de confinement qui les garde dans l'obscurité par des liens éternels, etc. Jusqu'au jour où Dieu les enverra dans des temps de feu éternel. Alors, Jude rappelle ces exemples de corruption dans l'Ancien Testament pour dire que les faux docteurs qui étaient entrés dans l'Église, on ne sait pas c'est laquelle, où là où il y avait ces croyants qui s'étaient laissés prendre au piège, eh bien, ils font la même chose. ils souillent la chair, ils agissent d'une attitude complètement contraire à ce qu'ils devraient être, surtout en tant que croyants, puisqu'ils se disaient croyants, mais ils agissaient de façon complètement contraire. Quand ils méprisent les dominations et injurient les dignités, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont deux catégories d'anges, probablement. Les mots domination, autorité, puissance sont souvent utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de catégories d'anges du monde spirituel. Mais ça peut s'appliquer très facilement aussi à tout niveau d'autorité. Tous ceux qui vont à l'encontre de l'Écriture, de la parole de Dieu, sont très souvent rebelles à toute forme d'autorité. Ils ne sont pas enseignables. C'est difficile de les reprendre, de les instruire, de les corriger parce qu'ils ne veulent tout simplement pas. Ils détestent se soumettre à une autorité. Ça, c'est un très bon signe de personnes qui enseignent des fausses doctrines. Ils ne se soumettent à aucune autorité. Pourtant, ils avaient un exemple du monde spirituel. Michel, l'archange, il dispute le corps de Moïse avec Satan. Et il n'ose pas lui dire aucun mot déplacé, aucun mot injurieux, parce que c'est au Seigneur de juger le monde spirituel. Mais eux, les faux docteurs, hein, ça dit, mais ceux-ci, dans le verset 10, vous voyez bien, mais ceux-ci. Et puis, si vous descendez comme ça à travers le texte, verset 12, ceux-ci va revenir encore une fois, et c'est comme ça, 16, ceux-ci, etc., jusqu'à la fin. Ceux-ci, ceux-ci, ceux-ci. C'est toujours les mêmes, les faux docteurs, les gens qui tordent la parole de Dieu, qui font dire n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas ce que la parole de Dieu enseigne vraiment. Ce qui est caractéristique des faux docteurs, c'est non seulement qu'ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu et à n'importe quelle forme d'autorité, mais en plus, ils agissent mal dans la chair, ils agissent dans le péché, ils se conduisent comme s'ils étaient des bêtes, littéralement, dans le verset 10, et ils sont exactement à l'image de Caïn, meurtrier. Meurtrier même dans un sens, tu vois, figuré, où ils détruisent des vies. Comme Balaam, qui sert avec des mauvais motifs. Balaam, il a l'air, hein, quand on le lit, il a l'air du prophète que, oh, il cherche vraiment la volonté de Dieu. En fait, il est en train de faire monter les enchères. Quand il dit à Balak, « Ah non, mais moi, je ne peux pas rien dire si Dieu ne veut pas, tu sais. » Ça veut simplement dire, « Monte ton prix. Monte ton prix, tu ne fais pas assez cher. » Et d'ailleurs, on voit Balak, hein, qui... Et puis, finalement, le bon Balaam, ben, il va finir par tendre un piège. Il n'a pas réussi par des malédictions, parce que c'est vrai que Dieu ne lui permettait pas de parler contre Israël, mais il va réussir à faire tomber beaucoup de Juifs avec la séduction, le péché sexuel. Et donc, voilà, Balaam est corrompu dans sa contradiction, sa révolte, exactement comme les faux docteurs, rebelle à l'autorité. Hein, vous vous rappelez Coré? Hein? Moïse, Aaron, le Seigneur ne parle pas que par vous, blablabla, nous aussi. Eh bien, le Seigneur a fait la part des choses. Hein? Alors, eux, Jude dit, vous vous rappelez de ces gens-là dans votre Ancien Testament? Comment ça se fait que vous avez laissé rentrer ces faux docteurs chez vous? Tirez instruction de l'Ancien Testament, de la révélation progressive de Dieu, elle vous mettra en garde. Voyez comment sont les œuvres des faux docteurs. Ça ne porte rien, pas de fruits valables. C'est que du naufrage qui nous attend quand on écoute les enseignements de l'un et de l'autre qui ne sont pas fondés dans les Écritures. Ils sont des taches dans les agapes, mais heureusement, la Tarbi a mis une petite note de bas de page qui dit des écueils. Parce que vraiment, c'est des écueils, c'est des rochers qui sont à fleur d'eau que tu ne vois pas. Et là, le navire, il rentre là-dedans et puis il s'échoue. Ouais. Il brise la coque et puis ça finit avec un naufrage. Ils sont comme ça, les faux docteurs. Tu vois, ils ont peut-être en surface, ça paraît bien, mais en profondeur, derrière tout ça, ils vont te faire échouer. C'est tout ce qu'ils font. Ils vont dans les agapes, et on connaît parce qu'on utilise le terme de la même façon, ces repas de frères et sœurs qu'on manifestait l'amour croyant. Eh bien, ils viennent là-bas, mais c'est pour eux-mêmes, pour se satisfaire eux-mêmes. Ils n'ont pas de crainte, c'est-à-dire aucun respect pour personne. Ils viennent et profitent tout simplement de l'assemblée, de l'église locale, des nuées sans eau. Ce sont des nuages qui passent dans un temps de sécheresse où tu aurais vraiment besoin de pluie, mais elle ne tombera pas parce qu'il n'y a pas d'eau avec ces gens-là. Il n'y a rien, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a aucune bénédiction à laisser ces gens-là en place et à les tolérer. Ce sont des arbres d'automne sans fruits. C'est à cette période qu'on devrait avoir des fruits. Et pour insister à quel point ils sont inutiles, dommageables, deux fois morts, pas juste une fois, deux fois morts, déracinés. Ils sont comme la mer, hein? La mer rejette tout ce qui est l'écume, là, avec tous les déchets qu'on laisse tomber dans la mer, dans l'océan, bien souvent ça revient sur les plages, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ce qu'ils sont. Ce qui va sortir de leur activité, ce que des mauvaises choses qui vont aboutir sur les plages de vos vies, si on peut dire, des étoiles errantes, on ne peut pas se fier sur eux pour être guidé, par exemple, dans le monde maritime. Ils s'en vont n'importe comment dans l'obscurité, puis ils disparaissent aussitôt dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que leur avenir, c'est les ténèbres sans fin. C'est de l'aveuglement spirituel qui anime ces gens-là. Alors, voilà pourquoi Jude met tellement en garde et en vient même à citer cette prophétie d'Enoch pour dire « Un jour, le Seigneur va revenir et va juger. » Mais maintenant, pour l'instant, c'est à nous de discerner ceux qui agissent mal. Regardez ce qu'ils font au verset 16. Ils murmurent. Ils ont toujours quelque chose à dire contre quelqu'un. Et quand on fait ça, frères et sœurs, on imite un peu leur conduite. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, arrêtez de murmurer. Murmurer, c'est chuchoter tout bas quelque chose contre quelqu'un. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va le voir tout de suite, parle-lui et réconcilie-toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Mais eux, ils murmurent. Murmurateurs. Ils se plaignent de leur sort. Ils sont jamais contents de rien. Ils veulent toujours plus, toujours. Ils sont vendeurs. Ils choisissent des gens parce qu'ils savent qu'il y a un profit à tirer d'être amis avec certains. C'est la fin du verset 16. Ils admirent des hommes en vue de leur propre profit. Mais, verset 17, vous. Mais, conjonction qui fait un contraste immense. Mais vous, bien-aimés, revenons à la parole. Souvenez-vous des paroles qui ont été dites par les apôtres. C'est la doctrine, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce sont les lettres apostoliques. Jude dit, revenez parce qu'elles nous mettent en garde. Alors, tu vois que la première partie de la lettre de Jude, c'est l'Ancien Testament déjà nous mettait en garde contre ce genre de personnes. Attention! Mais même les apôtres ont enseigné là-dessus. Et là, je crois qu'il fait surtout allusion à 2 Pierre 2. Le temps nous manque, mais vous lirez 2 Pierre 2 et ensuite lisez Jude. Recommencez encore 2 Pierre 2, Jude. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vous allez faire plein de références parallèles là, parce que c'est exactement ce qui se passe. Oui, les apôtres ont dit... Il y aura des moqueurs un jour. Ils vont se moquer. D'ailleurs, demain, je vais en faire allusion à Orange, dans 2 Pierre 3, où je vais prêcher sur ce texte demain, là-bas. Oui, Pierre a dit en particulier, il y aura des moqueurs. Ils vont venir. Des gens qui provoquent des divisions. Hein? Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils agissent comme cela. Mais vous, bien-aimés, encore, verset 20, quand la parole dit, mais vous, bien-aimés, il faut qu'on soit interpellé. C'est à nous que ça s'adresse, pas uniquement aux lecteurs de Jude, mais c'est vrai encore pour nous. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. C'est toujours la sainte doctrine dont il parle. Vous savez que quand le verbe édifier est utilisé, littéralement, oikodomeo signifie bâtir, comme bâtir une maison. C'est exactement le sens. On construit quelque chose à partir d'une fondation, on construit un bâtiment. On construit sur quelque chose de solide. Eh bien, au sens figuré, édifier a le sens de bâtir sa vie chrétienne sur le fondement solide de la sainte doctrine, de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous avoir une fondation solide si on ne lit pas la Bible tous les jours? notre fondation va être très fragile. Et on est à risque. On est à risque. Mais quand on est édifié sur la très sainte foi, c'est-à-dire la doctrine, la parole de Dieu, en priant par le Saint-Esprit, et prier par le Saint-Esprit ne veut pas dire de prier le Saint-Esprit, veut dire d'être à l'écoute pour que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs ce qu'il nous convient de prier. Romains 8, 26 va exactement dans ce sens-là. Le Saint-Esprit, son rôle n'est pas d'intervenir devant le trône dans le ciel pour modifier nos prières ou en cours de route pour les changer pour qu'elles arrivent correctes au trône. On fait erreur quand on pense ça. L'intercession du Saint-Esprit n'est pas du tout en haut. Ça, c'est Jésus qui fait ça en haut. Elle est ici. C'est dans notre cœur que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables pour nous souffler dans notre cœur ce pourquoi il faut prier, la chose pour laquelle il faut prier. Et donc ici, il est question de bâtir notre vie appuyée sur la parole de Dieu et en étant sensible à la direction de l'Esprit-Saint dans notre cœur. Et quand c'est comme ça, eh bien, on peut se conserver, c'est-à-dire se garder intact dans l'amour de Dieu. On prend conscience que Dieu nous aime et notre amour pour Dieu qui se manifeste dans l'amour des uns pour les autres est un sûr rempart pour notre foi chrétienne. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend le Seigneur, comme Jude le dit. Attendez le Seigneur, attendez-le, il va revenir. Gardons à l'esprit que Christ va revenir. C'est une puissante motivation pour une vie sainte. Mais il y a des gens qui sont déjà séduits, des gens qui sont déjà tombés, des gens qui se sont éloignés, qui ont abandonné le rassemblement. Est-ce qu'on va vers eux? Les uns qui contestent, reprenez-les. Les gens qui contestent, c'est les gens qui ne comprennent pas, mais qui sont influencés par toutes sortes de mauvaises influences et qui sont, tu vois, pas décidés exactement. D'autres sont carrément tombés. Il faut les sauver avec crainte. Il faut les arracher du feu. Autrement dit, il faut les amener à la repentance et à un retour à la saine doctrine. Mais faites bien attention de ne pas être entraîné avec eux. Quand il dit d'haïr, même le vêtement souillé par la chair, il veut simplement dire, faites attention aux péchés qui pourraient vous entraîner facilement. Faites attention parce que c'est vrai qu'il y a un pouvoir de séduction immense dans le péché et il pourrait nous amener à tomber. Heureusement que Jude avait une relation vivante avec le Seigneur parce qu'il savait que malgré tout, le Seigneur allait garder les lecteurs de son épître. Il le savait parce que le Seigneur en a le pouvoir. C'est ce qu'il souligne au verset 24. Et même, quelle joie de savoir que malgré tout, le chemin chaotique par lequel on peut marcher parfois, nous allons, en bout de ligne, arriver à l'image parfaite de Christ. Parce que c'est là ce que le Seigneur nous a promis dans sa parole. Ce n'est pas surprenant que je termine avec une doxologie, une parole de gloire au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire, la majesté, la force, le pouvoir, et pour tout le temps. Pour tout le temps. Mais ce sont des belles paroles, mais est-ce qu'elles veulent dire quelque chose dans la vie de tous les jours? Bien sûr! On reconnaît la suffisance de Dieu, sa toute-puissance, sa capacité de nous garder, de nous reprendre, de nous diriger, de nous corriger, de nous instruire. Dieu est capable de le faire. Et à lui la gloire pour la vie des croyants transformés dans l'Église. C'est ce que Jude veut dire à la toute fin. Et c'est pourquoi, avec lui, comme d'une seule voix, nous allons prononcer ensemble le dernier mot de cet épître.
Amen.
Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, ah, qu'elle est puissante. Seigneur, merci pour cette lettre de Jude et qu'elle puisse, toucher nos cœurs, nous affermir dans la foi, dans la sainte doctrine. Et Seigneur, préserve nos pieds de la chute. Donne-nous une attitude aussi de compassion envers ceux qui sont égarés et qu'on puisse, Seigneur, être utile pour les encourager à revenir à la communion. Et aussi, Seigneur, dans la communauté de la famille de la foi. Merci d'être notre Sauveur. Merci, Père, d'être notre Père. Et que la gloire te revienne. Amen.
Amen. Amen.